Gameblogueuse, gameblogueur, bonjour et bienvenue dans le nouveau podcast de la rédaction de Gameblog. Cette semaine, retour sur l'actualité trépidante qui a illustré cette semaine avec moi aujourd'hui, Julo.
Salut.
Ça va?
Ouais, super.
Romain.
Wesh.
Ça va? Et bien. Julien.
Bonjour.
J'espère que ça va aussi.
Ça me fait plaisir de vous retrouver.
Oui, ça fait quelques temps qu'on ne t'avait pas vu, ça nous fait plaisir aussi de te revoir en chair et en os dans les podcasts dont le sommaire... commence maintenant. Nous allons commencer tout d'abord avec Final Fantasy X-X2 HD Remastered qui est arrivé sur PS4. Évidemment, on va vous en parler tout à l'heure. Life is Strange épisode 3. La sauce est en train de prendre vraiment avec le jeu de Dontnod. Et c'est pareil, on vous dit tout à l'heure pourquoi c'est peut-être un des meilleurs jeux d'aventure de l'année. Et nous finirons avec cette polémique qui n'est pas nouvelle, qui n'est pas née d'hier, à savoir le downgrade qui a touché The Witcher 3. Ça l'a frappé, c'est évident, et nous allons savoir tout à l'heure si c'est quelque chose de vraiment ignoble pour le jeu vidéo. C'est pas le seul à qui c'est arrivé, mais avant ça, Julo.
Yes.
Julo. La vie.
Ce jingle est d'une tristesse.
Ouais, je sais, mais c'est la fête foraine en même temps.
Genre, je pense que tu pourrais trouver un truc plus réjouissant que des bruits de feux d'artifice.
Ah, parce que les feux d'artifice, ça vous fait pas kiffer?
Là, c'est un peu tristounet comme bruit, je trouve.
Ah,
moi, j'imagine plutôt un We are the champions.
Ah, ouais, ok, d'accord. Ah, mais ça, c'est ce que je vais chanter le 6 juin normalement. Mais après, c'est une autre histoire.
Allez, touche du bois.
Julo. Le win de la semaine, il nous a fait beaucoup rire.
Ouais, voilà, ça nous a fait rigoler. C'est Nintendo qui a fait un gros coup de com quand même. Et qui a fait très très fort.
Ils ont fait plus que fort. Parce qu'il y avait eu un employé chez Apple qui s'appelait Joe Samsung ou le contraire, je sais plus.
Oui, c'est ça. C'était un employé d'un Apple Store et il avait même vendu sa carte de visite sur eBay. T'avais le logo Apple avec marqué Samsung en gros dessus.
Voilà, donc on est dans la fête des coïncidences puisque chez Nintendo.
Chez Nintendo, on a embauché chez Nintendo of America Bowser. Ça fait un peu peur comme ça, mais bon.
Qu'il s'agit en fait. Tu l'imagines arriver au bureau comme ça, cracher de trois fleurs, manger des gens.
Alors c'est assez marrant. Donc c'est Doug Bowser en fait, hein, c'est son nom de famille, qui a été embauché donc par Nintendo of America en tant que vice-président des ventes. C'est lui qui s'occupe de tout ce qui est mis en place dans les magasins, etc.
Hein.
Il a fait une petite photo d'ailleurs, et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur la photo derrière on voit Mario et Luigi qui sont enchaînés l'un à l'autre. Vous avez vu ou pas?
Ah oui, c'est vrai.
Et surtout
on voit pas Bowser justement.
Et non, parce que Bowser, il est là, on le voit en gros, c'est son nouveau visage.
Vous pensez qu'ils ont fait exprès d'attacher Mario et Luigi?
Je pense que oui.
Oui. Avec les fils de la manette
GameCube.
Nintendo 64 ou GameCube.
Ah, c'est avec une manette GameCube. Ils sont vraiment enchaînés l'un à l'autre.
Il y a les fils de Bowser, par contre.
Il y a un petit Bowser en dessous.
Ah ouais, il y a ces
petits Goomba aussi.
Donc voilà, il nous vient d'Electronic Arts en fait. Il était Global Business Planning Manager chez Electronic Arts.
Voilà. Ça aurait été limite plus drôle s'il avait été embauché chez Sony ou chez Microsoft, et on aurait pu dire il vient pour saboter le business plan de ces deux boîtes. Mais bon, chez Nintendo, c'est rigolo aussi.
Ça, c'est Phil Harrison.
On lui laisse.
Mais c'est amusant parce que chez Nintendo US, en tout cas, on est donc pourvoyeur des noms de la boîte, puisque Mario, finalement, c'était à la base.
Ouais, c'était la personne qui avait le concierge.
Ouais, des locaux de Nintendo America, quoi. Donc,
l'intendant.
Il puise un peu comme ça.
Effectivement, l'intendant, voilà. Merci, Romain, pour cette précision qui te vaut un regard noir.
Je t'en prie.
Julo. Il n'y a pas que des wins dans la vie. Il y a aussi
ce jingle-là, par contre, il est
bien. Celui-là, il est bon.
Il colle bien.
Bon, de toute façon, on fera une révision des jingles pour l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas. Julo, qu'est-ce qui s'est passé de dramatique cette semaine?
Foncièrement dramatique, t'as raison. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque de la sortie d'Assassin's Creed Unity l'année dernière, il y avait eu un petit couac historique, on va dire, une petite erreur historique avec la présence d'une guillotine devant Notre-Dame, parce que tous les spécialistes avaient dit « Mais non, c'est pas possible, ils n'étaient pas là. » Il n'y avait pas de guillotine piscine devant, devant la cathédrale.
Enfin, tous les spécialistes, c'était Plume.
Ouais.
Oui, c'est moi qui avais fait une visite, en fait, guidée quelques jours avant. Et on avait dit, ah non, alors c'est là, là et là que ça a été installé. Et puis, en fait, Notre-Dame voilà. n'a jamais été citée comme
donc,
un endroit.
Donc, les anachronismes dans Assassin's Creed Unity, il y en avait plus d'un.
C'est évidemment pas dramatique, mais une nouvelle petite erreur historique s'est glissée dans le trailer de, le, comment il s'appelle, Syndicate, Assassin's Creed Syndicate. Un passage dans la gare où l'on voit un train arborant le logo de British Railways. On sait que le jeu se déroule en 1868. Or, cette compagnie ferroviaire ne s'est appelée British Railways qu'à partir de 1949, soit 80 ans plus tard.
80 ans même.
90
années,
quoi.
Ouais, 90 années. Ouais. Donc, bah oui, effectivement. Mais après, il me semblait qu'on en avait déjà discuté dans un podcast que ce genre d'anachronisme était expliqué dans le jeu parfois en disant oui, il y a eu une petite brouille.
Exactement.
Il y a un problème dans l'enchaînement des flashbacks.
Ouais, ouais,
comme
ouais.
Ça.
Il y a souvent des petites pirouettes dans Assassin's Creed, par exemple dans Black Flag. Il y avait dans je sais plus quelle île une église qui en fait n'existait pas à ce moment-là, et dans les petits commentaires du jeu qui sont glissés par les personnages dans l'espèce de d'encyclopédie interne au jeu, bah, ils expliquaient oui, alors ça c'était pas là mais je l'ai ajouté parce que je l'ai trouvé super joli, etc. Donc c'est des petites pirouettes rigolotes parce que évidemment Assassin's Creed avec son thème historique à chaque fois n'est pas à l'abri de faire quelques erreurs, voire de quelques petits arrangements historiques.
Ouais, à mon avis c'est plus des arrangements qu'autre chose, quoi. Ils jouent avec l'histoire, mais c'est pas non plus un livre d'histoire, quoi. C'est-à-dire que c'est pas avec Assassin's Creed qu'on aura 20 sur 20 au bac histoire, quoi.
Ouais, ouais, mais ils prennent quand même plaisir, et c'est un plaisir aussi pour les joueurs après de découvrir des choses sur ces périodes à l'occasion des jeux, quoi. Donc voilà.
Oui, bon, voilà, ça nous
petit
a fait sourire encore une fois.
Voilà. Alors jettera pas la pierre non plus, quoi.
Non, plus.
Non, pas cette fois.
Pas pour ça en tout cas.
Pas pour ça exactement. Romain.
Ouais.
Tu vas prendre une autre voix immédiatement, un autre ton parce que le chiffre de la semaine, Romain, quel est-il ?
Eh bien mon cher Bruno, le chiffre de la semaine c'est 52. 52 quoi ? 52 millions. 52 millions de quoi ? 52 millions de GTA V distribués à travers le monde, ce qui est totalement incroyable.
Bah c'est complètement ouf, mais parce que quand on regarde les chiffres, là j'ai la fiche sous mes yeux. Et ça, c'est écrit PC non compris.
PC non compris, parce qu'en fait, c'est les résultats sont les résultats financiers de Take-Two diffusés en début de semaine, et ça s'arrêtait logiquement au 31 mars dernier. Mm-hmm. Et donc, la version PC n'était pas incluse dans ces chiffres. Bon, après, petite précision, on parle bien de chiffres distribués, mais ça inclut les chiffres vendus en dématérialisé, en fait. C'est chiffres dématérialisés vendus plus copies physiques distribuées à travers le monde, ce qui est un chiffre quand même
conséquent.
Parce
qu'on était à 30 millions, si je me rappelle, pour PS3 et Xbox 360. Donc ça veut dire qu'il y aurait déjà 20 millions sur PS4 et Xbox One.
Ah, c'est un carton plein. Et ce chiffre va forcément gonfler avec les ventes sur PC.
Oui, que le PC, et, rappelons-le quand même, Steam, c'était 1 million en une journée.
Voilà, rien que ça.
C'est quand même un truc de fou.
Et quand on sait que le record historique de la série jusqu'à présent, c'était San Andreas avec 27,5 millions d'exemplaires vendus. Là, une fois que tout sera décompté de manière catégorique, PC y compris, on va plus que doubler le chiffre de San Andreas, qui était un méga carton. Ouais. Donc c'est succès incroyable, planétaire, qui ne s'arrête pas.
Je sais même pas, il y a un mot au-dessus de succès, non, pour
phénomène.
Phénomène, ouais, c'est ça, mérite qu'on en parle, je crois, GTA, mine de rien. Je sais pas ce que vous en pensez,
mais... Je trouve qu'on n'a pas fait assez de news sur GTA dernièrement.
Okay.
Tu vois, le truc, c'est en reproduire.
Tu vois, autant il peut y avoir une certaine lassitude qui s'installe quand tu parles d'un jeu à répétition comme ça, quand le jeu dans ton esprit, tu te dis qu'il ne le mérite pas forcément. Mais GTA V est un jeu tellement bon, à tellement de niveaux différents, que finalement, ce succès, tu le trouves complètement justifié.
Là, il faut quand même dire un truc, c'est qu'ils ont relancé, mine de rien, avec le Rockstar Editor. Là, il y a eu un concours qui s'est ouvert il n'y a pas très longtemps. Ils font un concours pour réaliser un clip officiel d'un groupe qui fait partie de la bande originale du jeu. Ils ont réussi, encore une fois, je crois, à relancer l'intérêt pour leur jeu à chaque fois. Le online avec les braquages, alors là, n'en parlons pas. C'est quand même... Enfin, c'est fou, quoi. Ils sont très, très forts. Et il n'y a pas un DLC histoire aussi qui devrait être en préparation? Alors, on ne sait pas trop. Ils ont fait une mise au point, en fait.
Quelques mois après la sortie de la version PS3 et 360, Rockstar, dans un post sur leur site officiel, avait clairement dit « Oui, nous prévoyons pour 2014 de continuer l'histoire de Michael Franklin et Trevor, donc forcément via du DLC scénarisé. » Après, silence radio. Moi, quand j'avais été chez Rockstar, on m'avait plus ou moins parlé implicitement du DLC scénarisé. On m'avait dit que ça viendrait. Mais pas d'informations à ce sujet depuis. Et là, pendant la conférence téléphonique, il y a une session de questions-réponses entre Strauss Zelnick et le PDG de Take-Two, et investisseurs, journalistes, machin. Et donc là, il y a un investisseur qui dit « Oui, et qu'en est-il du DLC scénarisé ?» Là, Strauss Zelnick dit « On n'a jamais parlé de DLC scénarisé. » Et l'analyste, il insiste un peu, il dit « Si, moi, je me souviens bien que vous
aviez… » Je l'ai lu sur Gameblog.
Vous avez entendu des choses dans notre bouche que nous n'avons jamais prononcées. C'est pas ça qu'il a répondu ?
Non, je me souviens bien que vous aviez parlé de DLC scénarisé. Et là, Strauss Zelnick qui répond, on se rappelle pas des mêmes choses tous les deux.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Genre, ferme
on
là,
pas
quoi.
Les mêmes souvenirs.
Et donc forcément, les gens ont été ressortir les déclarations d'époque de Rockstar, etc. Donc forcément, Take-Two a fait un communiqué pour dire Strauss s'est trompé, enfin a mal parlé plus ou moins. Donc pour l'instant, il n'y a rien à annoncer à ce sujet-là, et quand ça sera le cas, on laisse Rockstar le faire. Parce qu'il faut rappeler que Rockstar, c'est une filiale de Take-Two Interactive.
Ouais.
Voilà.
Mais c'est, ouais, de toute façon, je pense que leur jeu, quand tu vois qu'un an après, il ressort sur PS4, Xbox One, ça se passe bien, ils peuvent franchement viser une durée de vie, j'ai envie de dire, de GTA sur 5 ans, 6 ans.
Jusqu'à GTA 6, en fait.
Mais ouais, mais carrément.
Là, le truc, c'est que...
C'est qu'ils pourraient même se dire, tiens, Red Dead 2, rien à foutre. Ou Midnight
Club,
ou
machin. Ah non, s'il te plaît, non.
Ouais, j'aimerais
ça
bien,
faut
mais,
pas.
Mais ils pourraient se le dire, quoi. Ils pourraient se dire, oh, c'est pas grave, on continue à engranger les
distances. Ils se disent comme d'habitude, ils se disent, on a le temps et on va faire un super
voilà,
jeu.
Voilà, c'est ça, le truc, c'est que... Un DLC scénarisé, c'est un moyen de relancer les ventes du jeu. Mais là, pour l'instant, les ventes du jeu, elles n'ont pas besoin du tout d'être relancées.
Exactement.
Le truc continue de cartonner et à se vendre comme des petits pains. Donc, ils peuvent tout à fait prendre leur temps. Bah après, vu la qualité de Lost and Damned et Gaytony, moi, je souhaite grandement que Rockstar nous propose des épisodes scénarisés pour GTA V. Vraiment.
Ouais, bah,
c'était
aussi,
tellement
aussi.
Bien. Et après, ils peuvent se permettre de les vendre en stand-alone comme ils l'avaient fait pour les deux autres. C'était très bien.
Bon, voilà. En tout cas, 52 millions, vous aurez compris quand même que c'est assez historique. C'est pas tous les jeux qui font ça.
Ils se placent
tous les jours.
Ils se placent dans le haut du classement des jeux les mieux vendus de tous les temps.
D'autant que ceux qui sont un peu devant lui sont généralement des jeux qui étaient vendus en bundle avec les consoles pendant extrêmement longtemps, quoi.
Après, il y a des jeux comme Tetris, parce que là, ça compte de multiples versions sur de multiples plateformes sur une très longue période de vente. Et il y a le phénomène Minecraft qui est toujours devant. Mais GTA n'aura pas à rougir une fois que les ventes du cinquième épisode auront terminé.
T'inquiète, ils n'auront jamais à rougir de toute façon, tout court.
Non, c'est sûr.
C'est pas un problème pour eux. Autre phénomène, les articles les plus de la semaine, messieurs, quels sont-ils ?
Alors, j'ai pas regardé depuis.
Ah bah voilà, t'as pas regardé.
Y a pas le Joker ? Les photos du Joker ou
alors, ça... on va le faire dans l'ordre d'abord. Numéro 5, Batman v Superman, deux visuels du combat entre les héros.
Ah, ça a
fuite.
Changé donc.
Voilà, bon, ça intéresse forcément, hein, Batman Superman. On a envie de voir Ben Affleck, on a envie de voir. On a envie de voir Henry Cavill, je confonds avec un footballeur, Cavill, qui se met sur la tronche. Il porte une armure, non, en plus, dans ce combat.
En fait, ce sont des artworks qui représentent le combat entre les deux héros. Et il faut se souvenir que ce film-là est vachement inspiré du Dark Knight Returns de Frank Miller, qui est une BD très connue. Et effectivement, pendant le combat entre Superman et Batman, Batman doit utiliser des subterfuges pour réussir à tenir tête à Superman. Et il a une armure spéciale.
Ça aide d'avoir de la thune, hein, quand même.
Voilà. Numéro 4, ressources illimitées.
Suicide Squad, donc toujours dans l'univers DC Comics. Première vidéo du Joker de Jared Leto. Qu'est-ce que t'en penses, Romain ? Toi qui es président du fan club officiel de.
Encore un
du, oui, bah, de tous, de toute façon. De Joker.
Et bah, je suis curieux. Parce que Jared Leto est un grand acteur, franchement.
Pour moi, c'est un type ultra brillant.
Moi, je lui
que ce soit son groupe de Zik, 30 Seconds to Mars, quand il est acteur dans Dallas Buyers Club, il est incroyable. Il est incroyable. Il est du niveau de Matthew McConaughey, franchement.
Moi, je lui fais totalement confiance
en
termes de performance d'acteur. Visuellement, ça a choqué son look de Joker, a choqué pas mal de personnes. Mais il faut dire que dès qu'il y a un nouveau Batman ou un nouveau Joker qui est annoncé, les gens gueulent. C'est systématique. Ils l'avaient fait pour Nicholson et Keaton à l'époque, ils l'ont fait pour Heath Ledger. Donc là, ils l'ont refait. Mais moi, je suis plutôt content qu'il n'ait pas cherché à copier Heath Ledger, parce que ça aurait pas été terrible. Ils ont voulu se détacher de ça. Donc visuellement, ça change, mais pourquoi pas. Après, sur la vidéo liée à cette news, Ses mouvements, on voit pas encore grand chose, mais je le trouve pas, peut-être pas assez exubérant. Il fait plus gangster que Joker en fait. Parce que Joker, la thune, tout ça, il s'en fout. Lui, il veut juste le chaos. Ouais. Et donc là, c'est pour ça que je suis un peu partagé pour l'instant.
Après, c'est une vidéo où il est de dos. Et donc, on voit pas ses expressions faciales, etc. Ou peut-être qu'il joue extrêmement bien au niveau du regard, la bouche.
Mais Suicide Squad, de manière générale, t'y crois, toi? Ah ouais, c'est bien ce que je me disais aussi.
Je
n'en dirai pas plus.
Je ne sais pas. En fait, l'univers DC cinématographique me laisse un peu perplexe d'une manière générale pour l'instant. Donc, j'espère être agréablement surpris. C'est tout.
Numéro 3, jeuxvideo.fr ferme ses portes. Évidemment, une pensée aux équipes de jeuxvideo.fr qui ont dû. M6 leur a dit bye bye.
C'est quand même assez symptomatique parce que c'est un gros groupe M6 qui va pas extrêmement bien en ce moment, mais enfin bon, qui a quand même beaucoup de sous, plus que d'autres. Et ça fait quand même deux sites, puisqu'il y a JVN qui a fermé ses portes officiellement plus d'un an, un an et quelques. Donc ça fait déjà deux en moins. C'est dire à quel point c'est complexe. Vous l'avez vu aussi, la restructuration. Il y a eu des mouvements du côté de jeuxvideo.com, il y a eu des mouvements massifs, deux fois en un an, du côté de Gamekult, il y en a eu du côté de Gameblog. Donc la presse de jeux vidéo, elle souffre, c'est un fait, elle cherche des moyens de perdurer avec vous. Donc c'est sûr que plus que jamais, le soutien de vous, lecteurs, les abonnements premium, quand vous aimez, n'hésitez pas à soutenir évidemment de fait en venant, en n'hésitant pas à participer sur les forums aussi, à créer de la vie. Nous, on a une grande plateforme de blog qu'on essaye de vraiment valoriser pour les meilleurs, les plus intéressants, les plus pertinents le week-end, par exemple. N'hésitez pas à l'utiliser parce que ça, en tout cas, si vous aimez Gameblog, ça fait du bien. Et en tout cas, maintenant, je crois qu'on peut plus se cacher derrière son petit doigt. Vous voyez que tous ces sites-là, Gameblog, Gamecube, jeuxvideo.com, jeuxvideo.com, c'est un petit peu à côté encore quand même parce qu'ils sont tellement énormes, peut-être qu'un jour ils ne seront plus là si vous n'êtes plus là ou si vous êtes moins là. Ça a été le cas pour jeuxvideo.fr, pour JVN et d'autres.
Ce qui est particulièrement cruel dans cette histoire, je trouve, c'est pour les équipes de feu Tom's Games qui avait été racheté par M6 et il y a un peu plus d'un an et qui avait été regroupé avec jeuxvideo.fr, et le personnel de ce site là avait dû déménager de Paris vers Lyon. Et un an après, tu déménages, tu fais bouger ta famille, ta vie, et un an plus tard, on te dit bye bye. Je trouve ça un peu dur.
C'est très difficile, effectivement. Encore une fois, une pensée à toutes ces personnes qu'on perd dans le plan. On leur souhaite évidemment d'en retrouver un rapidement. Numéro 2, The Witcher 3, comparatif PC, PS4, Xbox One. Là, dès qu'on commence à montrer un peu des pixels et à vouloir vous montrer qui c'est qui est la plus grosse, vous êtes au rendez-vous.
Pourquoi t'as levé la main, Poufy? Tu crois que c'est toi qui as la plus
évidemment,
grosse,
si vous lisez la conclusion, vous verrez que ce n'est pas si évident que ça. Parce que The Witcher 3 est un jeu qui, mine de rien, a bien été fait pour tout le monde. Numéro 1, enfin, les meilleures performances de stars d'Hollywood dans le jeu vidéo. Un top avec des acteurs extraordinaires. Le numéro 1 va vous surprendre, comme on dit à chaque fois entre nous. Et je sais plus.
Le numéro 4 est particulièrement vrai.
Il y en avait un que je voulais, auquel on n'avait pas pensé. Et je suis un peu triste de n'y pas y repenser. C'était Mark Dacascos dans Wing Commander. Et je pense qu'on aurait dû le placer. Parce qu'il avait un jeu incroyable.
Il avait joué aussi, c'était pas que Mark Hamill dans Wing Commander.
Non, t'avais Malcolm McDowell aussi, qui était à l'intérieur.
Malcolm McDowell a joué dans Command & Conquer.
Et il y avait Mark Dacascos, je crois que c'était dans le 4 qui jouait Mark Dacascos, je ne sais plus si c'était le 3 ou 4. Bref, Mark Dacascos, la légende, comme on dit, de Craig Freeman, et surtout de, comment il s'appelle dans Le Pacte des Loups?
Le Pacte des Loups, attends.
Il s'appelle...
Je sais plus. Mais il dit, des gens sont morts ici.
Voilà. J'entends leur cri. Voilà, ça je me rappelle. Mais attends, je sais plus comment il s'appelle, mais il était en slip tout le temps. Bref.
Mais Mark Dacascos, plus que ça, c'est le présentateur de Iron Chef aux États-Unis. Et là, si vous voulez aller sur, YouTube, Mark Dacascos, sa célébrité maintenant, il la tient plus à ça qu'à ses films.
C'est quoi
Iron
Chef?
C'est une émission de cuisine. En fait, ils ont plein d'ingrédients. Devant eux, c'est une compétition en fait, et c'est Mark Dacascos qui présente. Et à chaque fois, t'as un ingrédient mystère. Et il dévoile l'ingrédient mystère.
Genre, il découpe l'ingrédient avec son katana.
Il fait des cris et tout. Il fait des grands yeux comme ça.
Tiens encore, meuble.
Il fait une mise en scène. Et il dit un truc, je me souviens plus quoi, mais il dit un truc à chaque fois avant de présenter son ingrédient mystère. Et c'est culte. T'as des compilations de ça sur YouTube.
Justement, continue à parler.
Faut aller voir Mark Dacascos. Et je ne sais plus quoi dire. Ah si, Mark Dacascos qui avait joué aussi dans l'adaptation de. Non, non, non.
Merde, c'est une pub. Ah,
non, non, non.
C'est bon, voilà.
Non, c'est pas Streets of Rage, hein.
Attention,
jeu de...
Marc Dacascos.
Alors, ça va être génial pour vous, hein, puisque vous n'avez pas la vidéo.
Vous n'avez pas la vidéo, mais vous aurez le son, c'est suffisant. Merde, vous n'avez
il a tout éteint.
Il a
bravo
tout éteint.
Vraiment, j'ai fait pour tout éteindre encore une fois.
Cette démonstration est une réussite.
Aidez-moi, ce beat'em all de la NES là.
Voilà, donc Iron Chef.
Final Fight.
On regardera peut-être après le podcast.
Oui. Enfin, il y en a eu plein d'autres.
On regardera peut-être après.
Non, il faut écouter.
Billy Jimmy, là, comment ça s'appelait?
Ah, Double Dragon.
Double Dragon, oh, bah, il a joué un des héros dans le film Double Dragon.
Ah ouais,
Dacascos, ouais.
Attention.
Attends, je vais quand même le mettre, quand même, que les gens puissent le voir s'ils sont premium.
Bah écoute, peut-être, mais de toute façon, vous pouvez aller voir. Vous tapez Iron Chef, Marc Dacascos.
Let the battle begin.
Mais il n'y a pas que ça.
Ah bah,
quand
il le dit toujours
dévoile...
de la même manière.
C'est une autre compile, là. Hein.
C'est surtout quand il dévoile son...
C'est le secret ingrédient.
L'ingrédient mystère.
Bon, c'est passionnant.
Non, c'est pas le bon truc.
On ira le voir à la maison.
The secret ingredient is... Parmigiano Reggiano. Et puis il fait des trucs, il fait des mouvements, il y a des bruitages aussi avec, hein. Il y a les vrais bruitages de films de baston.
Ah oui, puis il se la joue vraiment Super Samouraï de la mort, quoi.
Ah ouais, d'accord. Non, il y a des trucs Cascos, incroyables.
J'avais bien aimé aussi dans la série The
avec
Pro.
Iron Chef.
Je trouve que la série elle a tenu qu'une saison.
Attends,
mais c'est très dommage.
Il y a les noms. Voilà, vous écoutez. Il donne tous les ingrédients en faisant un truc vachement théâtre. Et il ressemble vachement à Kim quand il fait ses mimiques. Enfin, vous verrez vous-même.
Tu vas prendre un high kick dans la tronche la prochaine fois. Ça,
de quoi
fait. Quand Kim va venir et qu'il entend
ça,
il va
le sait. Bon, franchement, Kim, entre Kim et moi, tu sais, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de violence.
Voilà pour les 5 articles les plus lus de la semaine. On
a quand même réussi à partir 10 minutes sur Marc Dacascos, c'est formidable.
Bah oui, mais c'est normal. C'est
inattendu.
C'est une légende, Marc Dacascos. Bref, premier thème, messieurs, un peu de douceur.
Ah, j'adore ce truc.
C'est vrai? Je crois que c'est pas la première fois que je le passe dans ce podcast.
Non, on a déjà entendu.
Ouais, on a déjà entendu. C'est old.
Ça fait du bon, du bien.
Ouais. Parce qu'on va parler de Final Fantasy X. Final Fantasy X H2. Non, Final Fantasy X2 HD Remastered qui est arrivé cette semaine sur PlayStation 4 après avoir déjà fait un passage sur PS3 et PS Vita.
Il y a un an déjà.
Il y a un an?
Ouais, ouais.
C'était déjà il y a un an? Wow, ça passe vite. Waouh, ça passe super vite. Tout ça pour dire qu'il est sorti et que il est plus mieux. Julo, toi qui es un fan de Final Fantasy X.
Ah bah je crois qu'on l'aime tous, non? Enfin tout.
Ah moi j'adore. C'est le dernier Final Fantasy que j'ai vraiment aimé.
Ouais.
Ouais, je crois que dans les plus récents c'est mon préféré, c'est clair. C'est vrai que il avait ce défaut qu'on a beaucoup reproché à Final Fantasy VIII d'avoir un design avec des personnages très Nomura, etc. Mais pour autant, il y a plein de trucs géniaux dans ce jeu. Le duo de héros avec Yuna et Tidus, j'adore.
Ouais, bah à part Tidus,
les autres personnages aussi, là, le vieux samouraï.
Il y a Tidus, hein, qui a un costume un peu particulier.
Comment il s'appelle? C'est Waka, là, avec les.
Ouais, Waka aussi.
Waka, il est un peu bon. Ouais. Moi, c'est Loulou que j'aimais bien.
Et puis, il était dépaysant.
Il est super classe.
Ouais, c'est vrai.
Il était dépaysant, un truc de fou ce jeu, parce que t'avais tous les décors possibles imaginables quand tu passais d'une zone à une autre, et t'avais le Blitzball, je sais pas si vous vous souvenez, c'était le mini-jeu donc
de
Final Fantasy
X,
où tu pouvais faire des transferts de joueurs, etc. C'est vraiment un super jeu.
Puis des environnements
qui m'a beaucoup marqué, hein.
Des environnements très variés qui invitaient véritablement au voyage, avec un peu cet esprit d'Okinawa quoi, au Japon, ouais. Très lumineux, très respectueux, avec vraiment énormément de douceur dans les propos, avec justement Yuna. L'histoire de Yuna est assez touchante, enfin leur relation elle est pas trop gnangnan entre Tidus et Yuna.
Non,
il y a des séquences extrêmement marquantes et clés. Et puis c'était la classe quoi.
Ouais, et le système de combat était vraiment génial.
Le meilleur de la série à mon sens.
Ouais, vraiment génial. Ils avaient un peu réformé l'ATB.
De fond en comble
même.
Puisque tu avais carrément une grille sur laquelle
tu voyais
quand est-ce que tes ennemis ou toi ou tes personnages allaient agir.
Comme dans Grandia en fait, ils avaient repris ça un peu de Grandia.
Et à chaque action que tu allais faire, tu voyais l'impact immédiat dans le temps et ton positionnement sur cette grille d'action. Et du coup, bah, tu pouvais vraiment faire venir aussi des personnages qui n'étaient pas dans ton rooster de base, les faire ressortir juste à la fin du combat pour prendre les XP pour tout le monde. Enfin, il y avait énormément de stratégie. Moi, je sais que très honnêtement, les combats comme ça, aléatoires, la plupart du temps, quand ça fait déjà 20-30 heures que tu joues, tu fais un peu du bouton de mashing et parfois je passais même la télé parce que je savais que c'était un combat qui allait durer 3 minutes, puis je revenais, je faisais ah oui, ben c'est presque fini. Là, j'ai jamais fait parce que t'avais toujours systématiquement des choses très tactiques que tu pouvais opérer.
Et en plus de ça, ils avaient pas repris le système des matérias, mais presque en créant le sphérier, là, ça donnait un aspect aussi très intéressant à l'évolution des personnages en capacité. Tu pouvais vraiment choisir des chemins différents sur le sphérier pour débloquer des aptitudes différentes et lier tes personnages entre eux. C'était vraiment.
Enfin, c'était. Ça l'est toujours. Une réussite. Il vient de sortir sur PS4.
Voilà, ouais,
en version HD Remastered.
Et c'est très très propre.
Ouais.
C'est
ouais.
vraiment très joli. Ils ont quand même refait vraiment les textures, certains modèles, etc. Donc c'est pas juste on plaque en HD, boum, comme ça, un peu à l'ancienne. Non, non, c'est vraiment beau. Alors après, c'est pas une remasterisation non plus. Enfin, ils ont pas refait le jeu, quoi. Mais c'est très propre. Et ça lui donne. Ça reste un petit peu rigide sur les animations. C'est peut-être ça qui, tu vois, qui aurait pu être boosté encore un peu, parce que ça accuse un petit peu le poids des ans. Mais sorti de ça, et puis on l'entend avec ses musiques, la bande son de FF10, elle est géniale.
Ouais. Et c'est quoi, c'est une 20aine d'euros, c'est ça pour
Ah non, pas du tout. C'est beaucoup plus cher que ça. Là, on en arrive peut-être au coin des critiques.
Uh-huh.
Il est 10€ plus cher que les versions PS3 Vita, et surtout, c'est absolument.
Pardon.
Ouais, il coûte 50
pour
euros.
Un jeu qui a 14 ans, c'est ça?
Ouais.
15 ans?
14 ans. Non.
C'est ça, c'est 2001? Il me semble. Hein.
Je me rappelle.
T'as quelqu'un qui est né au moment où de sa sortie passe le brevet, passe le brevet cette année.
Non, mais
bon, alors il est vendu 50 euros.
Mais alors ça, c'est
bon, il y a quand même deux jeux, on va dire quasiment 150 heures de jeu, je pense. Donc voilà.
Pour parce qu'on parle pas du 10-2, hein, mais le 10-2.
Oui, alors ça, par contre, à titre personnel.
Mais il a plu à certaines personnes, mine de rien.
Alors, le 10-2 était vraiment exaspérant en termes de.
De musique.
De. Non, c'était pas seulement les musiques, c'était
l'histoire.
La thématique, l'histoire, les filles là, qui étaient là, Yata, machin, etc.
Elles partent sauver l'apocalypse en chantant et machin.
Et en fait, le système d'évolution des persos et des combats était basé sur les fringues qu'elle portait, et donc tu changeais de fringues, ça faisait changer les habilités, etc. Alors c'était complètement con, mais par contre le système de combat était mortel. Il était vraiment mortel, mais le jeu et son scénario un peu
chiant. Pour moi, ça a un peu dénaturé FF10, quoi.
Ouais.
C'est-à-dire que d'un truc qui était très,
on aurait préféré une suite un peu plus sérieuse,
ça dénature totalement,
très mystique.
Final Fantasy,
là, c'était
tout court, je trouve,
c'était la Starac. Hein. Moi, je me rappelle, j'avais fait le test, j'avais appelé ça la Final Fantasy Star Academy, quoi.
Mais ça dénature totalement l'esprit Final Fantasy à la base. Parce que c'était à cette époque-là, il n'y avait jamais de suite d'un Final Fantasy. C'était la fin.
C'était la première fois.
C'est terminé, on n'en parle plus.
Alors que justement, la fin de FF10 est extrêmement ouverte, très touchante, entre la relation entre Tidus et Yuna. Et d'ailleurs, là, dans cette version remasterisée, il y a des bonus inédits, dont quelque chose qui tourne autour de ça pour les fans.
Qui parle un petit peu de la fin.
Oui.
Oui. D'accord.
Bah, mais un éclairage de nouveau.
Et les musiques ont été remasterisées.
Par rapport à ce
aussi.
Que voulaient les producteurs.
Non, je pense pas. Non. Ils amènent vers quelque chose ou d'autre.
D'accord. Très bien.
Et c'est absolument pas cross-buy. C'est cross-save, hein, si vous avez commencé le jeu sur PS3, vous l'avez pas terminé.
Ouais, cross-save, mais pas cross-buy.
Bah non, pas cross-buy.
Ça, c'est-à-dire
que,
hein.
Et même à l'époque sur PS Vita et PS3, c'était pas cross-buy non plus. Hein. Si tu voulais jouer aux deux versions, par exemple, commencer le jeu chez toi, l'emmener en vacances, parce qu'il était cross-save, hein, tu pouvais faire ça, mettre ta sauvegarde dans le cloud et puis y jouer sur ta PS Vita pendant
ça,
les vacances.
C'est un peu abusé. Si tu fais l'option cross-save.
Voilà, tu devais acheter le jeu deux fois, donc 80€. Et là, il faut à nouveau le racheter parce que c'est pas
cross-buy. 130€.
Ça revient très cher.
C'est un peu moyen.
Néanmoins, en fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre uniquement la version PS4. Et si vous avez une Vita, bah, vous faites le transfert de la PS4
du
Remote Play sur votre Vita. Et puis voilà, n'achetez pas le jeu deux fois. Enfin, ce serait un peu ridicule quand même.
Complètement. Enfin, sans cher, de super fan. Hein,
ah bah oui,
après,
faites ce que vous voulez.
Après,
hein,
jouer,
le Remote Play, ça reste quand même assez limité en termes de possibilités de jeu. Quoi. Si tu veux jouer dans le métro, bah non.
Ah, dans le métro, oui.
Oui, mais même
si tu veux
même
jouer
en
à campagne,
si,
etc.
Si t'as pas une énorme connexion, le Remote Play, ça marche très mal quand même.
Bon, tout ça pour dire, c'est toujours le même jeu. Il est toujours aussi bien, même s'il est un peu cher. Et on vous le conseille évidemment. On lui a mis combien sur Gameblog?
4,5 indispensable. Ouais.
Bah, c'est un jeu culte. Hein.
Ouais. C'est vraiment un jeu culte. C'est un des meilleurs Final Fantasy. Enfin, moi en tout cas, c'est un de mes préférés.
Très bien. On va passer à un autre jeu Square Enix. Tiens, étonnamment, c'est vrai. Dans cette semaine d'actualité qui était trépidante, oh là là. Et il y a eu la sortie de Life is Strange épisode 3. Chaos Theory. Bah c'est moi qui ai fait le test, évidemment, puisque je suis un passionné de ce genre de jeu. Le premier truc que j'ai envie de dire, c'est que je suis là pour le coup. Je vous rejoins quand vous dites l'épisode X, c'est relou d'attendre. Là, j'en peux plus. Là, la fin de cet épisode, c'est un retournement de cerveau, mais comme on en voit rarement. Alors, par contre, si vous avez vu le film L'effet papillon, ça va peut-être atténuer un petit peu. Vous allez vous dire, oh.
Excellent film d'ailleurs.
Bon, vous allez peut-être vous dire, j'ai déjà vu ça. Bon, peut-être, mais en attendant. C'était difficile d'imaginer qu'il y aurait un tel retournement de situation. Avant d'y arriver, on passe une fois de plus par la petite enquête de Maxine, donc l'héroïne, avec sa pote Chloé qui a les cheveux bleus, qui part sur les traces d'une autre fille du campus de la ville qui a disparu. Ça commence d'abord avec une petite phase, furtive, la nuit, avec des petits moments de tension. On sait qu'on peut être surveillé, qu'on peut faire du bruit. On va encore pouvoir jouer une fois de plus avec la faculté de l'héroïne de revenir dans le temps. Par la suite, c'est des moments plus calmes, des moments d'exploration plutôt des personnages, d'approfondissement. Et le truc qui saute un petit peu dans cet épisode, c'est que il y avait des évidences. On se disait bon bah lui il est coupable ou lui il est impliqué dans cette affaire. Bah ça commence à être un peu moins évident. Il y a des trucs où il y a des personnalités où on se demande si on s'est pas complètement gouré quoi. Donc voilà, on a quelques fausses pistes. Comme d'habitude, j'ai envie de dire que le jeu n'est pas tellement à l'honneur. C'est pas la partie ludique qui fait briller, même si les choix de dialogue sont importants.
C'est un jeu très contemplatif.
Ouais, c'est bien contemplatif, aussi. Mais sauf que dans le deuxième, il y avait des phases de gameplay, des petits puzzles, dont un qui te mettait vraiment sous tension et il fallait vraiment que tu réfléchisses à la façon d'aborder le truc. Là, ils ont abusé malheureusement j'ai besoin de ces trois objets pour avancer. Faut aller les chercher et puis tu passes ton temps juste à balayer comme à l'époque. D'accord. Où on balayait l'écran avec la souris sur les point and click quoi. Bon, disons que c'est une routine que j'aimerais ne plus trop revoir personnellement parce que je la trouve pas très intéressante.
C'est un moyen de faire durer le plaisir de manière un peu artificielle.
Ouais, artificielle, exactement. Ça n'empêche que encore une fois, Life is Strange se forge au fur et à mesure une vraie coque de grands jeux de l'année quoi. C'est l'histoire est toujours aussi attachante, les persos aussi, et c'est vraiment de plus en plus intriguant. On se demande vraiment où va.
Puis moi j'adore son style visuel. Il y a vraiment quelque chose. Il y a une identité à l'intérieur.
Moi ce que j'adore c'est le côté c'est des adolescents, c'est l'ambiance à l'école.
T'es un peu comme Jean-Luc Lai, t'aimes bien les adolescents, non c'est ça?
Non mais j'aime bien les films sérieux avec les films avec des propos sérieux, des enquêtes, des machins, mais dans l'univers c'est un peu nostalgique quoi, voilà, de l'école et tout ça.
On y est de toute façon, comme je crois j'en ai déjà parlé, mais t'as l'impression d'avoir vécu certaines scènes, certains dialogues avec des personnes. Donc
si j'ai bien compris, ils s'infiltrent dans le bureau du proviseur
tu le faisais toi aussi
bien sûr, moi je faisais ça le soir
bien sûr, pour aller changer tes notes. Donc
tu rigoles, mais tu sais ce que j'ai fait avec des copains?
Anecdote, putain, faudrait que je fasse un point anecdote
pour espionner le conseil de classe de fin d'année et savoir qui passait, qui redoublait, etc. On avait concocté grâce, je sais pas,
un cocktail Molotov.
C'était pas Pif Gadget, mais c'était un truc pas très sérieux, mais qui permettait de créer un émetteur-récepteur micro. Et on savait dans quelle salle de classe allait avoir lieu le conseil de classe. Et on a
Parker Lewis.
C'était Parker Lewis. On a mis un micro sous le bureau et on s'est mis devant le parc qui était devant l'école et on a écouté tout le conseil de classe. Voilà.
Ah, j'ai
grâce à Pif Gadget.
C'était pas Pif Gadget, je sais plus, c'était un truc qui t'expliquait un peu comment faire un micro facilement, quoi, un émetteur-récepteur et tout ça. On avait été chez Brico, machin, et on avait acheté des trucs.
Toi, tu te donnais du mal pour le conseil de classe.
Ouais. C'est un super souvenir.
Prochain podcast, Julo va nous raconter comment il a cambriolé la Banque de France en 1999.
Alors moi j'avais un autre moyen.
Ouais.
C'était délégué de la classe. Du coup j'y assistais directement.
Ah ouais, mais ça.
Voilà.
Mais comme ça, sûr que t'es un faillot toi.
Ben non, justement je défendais les autres justement. Je demandais au prof d'être
indulgent.
Plus indulgent, ouais.
Ouais. Bah moi j'étais délégué.
Autre anecdote, moi j'ai été délégué
une fois aussi.
On a tous des lunettes.
Non mais c'était une année où je foutais rien et à chaque conseil de classe je me faisais atomiser en direct live. Normalement t'es pas là tu vois, mais là j'étais là, je me faisais atomiser.
Attends, les quatre on a été délégués de classe?
Ouais.
Oh la vache, putain, oh là là, ça fait encore de on apporte encore de l'eau au moulin des personnes qui disent qu'on est des clones, Merde. On pourrait tous parler en même temps.
Ça serait
bien
drôle.
Évidemment.
Et bien évidemment. Ah,
évidemment. Hey, Plumeau, j'ai une question au sujet de Life is Strange. Est-ce que je sentais que t'allais passer à autre chose. Est-ce qu'une version en boîte est prévue avec tous les épisodes réunis?
Alors écoute, ça n'a jamais été évoqué encore. Mais à mon avis, à la fin, s'ils voient que ça a bien marché, ils vont sûrement le faire.
En tout cas, moi j'attends patiemment qu'il y ait.
Pouvoir tout faire à la suite.
C'est combien d'épisodes en tout?
C'est 5.
5, bah voilà, que ça soit fini. Et puis là, je jouerai à tout
d'un coup. C'est histoire de 2 heures à chaque fois, à peu près, c'est ça?
Ouais, environ 2 heures. Environ 2 heures. À chaque fois, tu passes un bon moment. Et je pense que quand on va arriver au 5ème, on sera très content. Bref, Life is Strange, encore une fois, vous pouvez y aller. C'est du bon. Et maintenant, on va remettre Marc Dacascos. Non, je plaisante. Nous allons passer au sujet le plus important de la semaine.
Au plus bouillant.
Au plus bouillant. Alors je vous mets une musique, vous savez peut-être pas ce que c'est. Nous avant le podcast on savait
pas. Il faut écouter les paroles.
On connaissait pas. Alors c'est un peu spécial.
C'est de la merde, poids.
Alors elle s'appelle.
Attends le refrain, attends le refrain.
Niemia Suprême.
Qui arrive au bout de 4 minutes.
Niemia Suprême.
Attention, il arrive.
Ouh,
voilà.
Downgrade.
Donc c'est Niemia Suprême qui chante Downgrade. Elle a fait des trucs avec Timbaland. Alors moi je la connais pas du tout, hein, cette jeune femme. C'est très intéressant ce qu'elle fait musicalement.
Bah, elle a fait un truc avec CD Projekt Red aussi.
Bon, par contre physiquement elle est intéressante.
Peut-être, ouais, je ne sais pas. Je vois qu'une photo et honnêtement on est totalement hors du débat. Puisque nous allons parler
la beauté, c'est toujours intéressant.
Du Downgrade. Puisqu'il y a une sacrée polémique, hein, qui a tourné autour de The Witcher et qui continue de tourner. À savoir que première annonce de The Witcher 3 en 2013, une petite vidéo qui éclate la gueule. Mais alors franchement, on l'a revu là, évidemment, quand on a fait le test, etc. Il y a des effets qu'il n'y a pas aujourd'hui. Bah là, il y a un rendu qui n'a rien à voir avec le jeu d'aujourd'hui.
Malheureusement.
Mais, bon, j'ai envie de dire quand même, pour trancher un petit peu, ça reste que aujourd'hui The Witcher 3 sur PC, PS4 et Xbox One qui sortait le 19 mai, il est quand même somptueux.
Mais il est magnifique.
C'est incroyablement beau.
D'une beauté folle. Mais c'est vrai que quand on voit cette vidéo de 2013, on peut se poser des questions. On se dit bah ouais, mais il y avait quand même des effets qui sont pas présents. Bon, je crois qu'à ce moment-là, il connaissait pas de toute façon les spécificités de la PS4 et de la Xbox One. Ils l'ont expliqué
en 2013.
En interview, ils l'ont expliqué, hein, que sans console, le jeu n'aurait pas été ce qu'il est aujourd'hui. C'est-à-dire, à savoir un monde ouvert, super beau, etc.
On est obligé de se fader, Mickey.
Non, tu as raison.
Franchement.
Niemia Suprême.
Ah,
elle est suprême. Respecte-moi son nom, s'il te plaît.
Également
elle est suprêmement géniale.
Nicki Minable.
Oh là là, les gars. Vous manquez vraiment de respect à cette jeune femme qui ne mérite pas.
Mais je ne l'ai pas trouvé. Je ne sais pas où est le respect.
Tu sais pas où est le respect.
Non, mais c'est magnifique. Mais effectivement, bon, bah, le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans le jeu vidéo, je crois que toutes les vidéos initiales d'annonce, va vraiment falloir les prendre maintenant avec énormément de pincettes. Parce que, soyons clairs, on se fait avoir systématiquement.
Ouais, pour est-ce que c'est l'intention Est-ce que c'est l'intention de départ à chaque fois?
Franchement, je crois que oui. Sans déconner, en 2013, mon œil qui savait pas du tout.
Les consoles sortent à la fin de l'année. Ils savent très bien au moment de l'E3 ce qu'elles ont dans le coffre.
Bah,
ils mettent la jauge un peu trop, tu vois, mais pas trop, etc. Après, c'est pas honnêtement.
Attends, 2013, c'était il y a 2 ans quand même, les mecs. On sait pas où est-ce qu'ils en étaient dans le développement. Et quand tu commences le développement d'un jeu, tu vises haut et après tu t'adaptes.
Oui, mais là, c'est pas,
pas voulu.
Mais le jeu est pas développé. Là, c'est une cinématique, c'est pas le jeu, quoi. C'est un truc fait pour le trailer.
Non, c'est une version. C'est un début de version PC. Qui est montré, mais sauf que effectivement ils se disent
les effets à fond
et voilà, avec tout
genre,
à fond
genre plus je pense que pas penser console mais PC
au début du développement d'un jeu tu as des ambitions et puis tu dois les ajuster parce que à un moment tu te dis si on veut arriver à ce résultat là il nous faut un an de plus pour faire tous les arbres et tous les sols et toutes les maisons de l'univers qu'on a
créé. Ce que je veux dire par là, c'est que tous les effets atmosphériques que vous avez vu créer, etc., ils n'ont pas tout créé, on va dire, dans le hard code du truc. Ils sont créés par des équipes. Maintenant, vous savez, de toute manière, les trailers généralement ne sont absolument pas faits par les équipes de développement, mais par des sociétés spécialisées dans les trailers qui ajoutent effets volumétriques, éclairage, blablabli, blablablo, histoire que ça pète le plus possible. Si on prend quand même globalement tous les trailers qu'on a vus depuis très longtemps, je parle de trailers, hein, je ne parle pas forcément de l'image in-game, etc., c'est toujours un peu plus beau que ce qu'on a au final.
Ouais.
C'est de fait un peu normal, parce qu'ils sont là pour vendre et t'en foutre plein la gueule, surtout la première fois.
Il y a un peu de dictature aujourd'hui la dictature des précommandes, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que maintenant, quand tu montres... alors, on va prendre des exemples concrets comme Watch Dogs, comme The Witcher 3, évidemment, mais il y en a d'autres que vous pourrez peut-être retrouver dans un dossier spécial bientôt.
Ah bah c'est déjà fait, si vous écoutez ça.
Qui est déjà paru, effectivement.
Le top des deux.
Il y a besoin peut-être déjà de s'assurer une visibilité dès le départ de dire, bon bah voilà, on vous montre ça, et ben bah, ça fait qu'il y a, il y a une promesse quoi dès le départ, et puis les gens ils vont
tout le monde fait ça
maintenant.
Tout le monde fait ça. Tout le monde fait le 20% d'entube. Y en a qui le font plus, et là ça se voit, et là c'est voilà. Là moi je trouve que dans Witcher, effectivement, oui, bon, c'est un peu moins beau, mais enfin le jeu reste exceptionnellement incroyable esthétiquement et techniquement au final. Mais comme tout le monde fait ça, si toi tu ne le fais pas, eh bah, t'apparaît moins beau, et donc tout le monde fait oui, bon, mais par contre, techniquement, je suis pas terrible.
Ouais, mais
etc.
D'ailleurs, et
donc
d'ailleurs,
ils le font tous.
Exemple très récent, parce que ce problème de downgrade, etc., on l'a beaucoup reproché à Ubisoft, qui faisait beaucoup de bullshit dans ses screens, dans ses présentations, etc. Et cette année, donc, vous l'avez remarqué si vous avez suivi la présentation de Assassin's Creed Syndicate, ils ont fait complètement l'opposé. Ils ont tenu compte, j'imagine, de ces critiques-là, et c'est pour ça qu'ils l'ont présenté comme ça. Ils ont présenté du gameplay qui tournait vraiment avec des bugs. Avec des animations telles qu'elles vont être, etc. Et les gens ont eu finalement une réaction une nouvelle fois négative.
Bah oui, mais c'est ça le problème.
Mais de toute façon, les gens ont toujours des réactions négatives.
Bah oui, non, mais c'est ça. Quelque part, on n'est jamais content, tu vois ce que je veux dire.
Moi, je crains que ça ne change pas beaucoup dans les années à venir, parce que effectivement, quand tu vois l'annonce là de Syndicate, honnêtement, t'es tellement habitué à avoir des trucs magnifiques où à chaque jeu ça doit être de plus en plus beau et tout, que là tu fais quand même bon. Ouais, pff, bon.
Ah ouais, alors que c'est beau hein, quand même.
Donc,
hein.
Non mais c'est beau. Et donc bien ça sûr, a été une erreur quelque part d'avoir été honnête.
Et ben je pense qu'ils payent d'autant plus Ubisoft le prix de leur malhonnêteté, c'est peut-être un bien grand mot, mais enfin de leur excès de croyance dans les capacités techniques des machines lors de leur sortie quoi.
Ouais, bah, de toute façon, c'est une pratique qui existe, même pour les jeux de foot. Hein, tu sais, tous les ans, on a droit à des images photoshopées à mort.
Moi, je pense que t'as jamais tort d'être honnête. Je pense que c'est jamais un tort d'être honnête.
C'est vrai.
C'est
non, mais
c'est
à leur cause du tort.
C'est vrai, mais
oui, c'est à leur cause du tort. Mais
ça intervient après des années.
Voilà, là, c'est leur, là, c'est leur propre faute.
Non, mais n'importe
en fait.
Qui présente un jeu aujourd'hui qui fait comme Ubi a fait, et il va, les gens vont pas être impressionnés. Et du coup, il y aura moins de buzz, et les gens vont moins en parler, etc.
Ouais, mais après t'enchaînes avec un bad buzz parfois massif avec des excuses
au moment de la sortie
avec des excuses
si c'est
trucs
trop,
comme ça
si
ils
c'est,
vont
si
finir
c'était trop malhonnête
mais il y
ouais,
en a
parce
un...
que The Witcher j'ai pas l'impression qu'enfin les gens lui reprochent certes d'avoir été downgradé, surtout les PCistes qui voient que la version PC est quand même pas incroyablement au-dessus des
alors,
versions
consoles.
C'est surtout ça le problème.
À mon avis, c'est ça le problème, c'est une frustration
côté PC,
du côté des joueurs PC.
Mais de toute façon, il y a eu un dans les,
parce que les joueurs consoles, ils ont rien à dire.
On va dire des trois personnes à la tête de CD Projekt chez Eurogamer où justement Marcin Iwiński qui est le cofondateur de CD Projekt a expliqué que ils allaient essayer de se rattraper, qu'ils allaient voir ce qu'ils pouvaient faire parce que eux ils se sentent désolés hein, d'ailleurs à ce sujet et qui vont permettre un patch qui permettra de trifouiller un peu le point ini du jeu sur PC et donc d'avoir quelque chose qu'on peut encore upgrader. Et à mon avis, ce qu'on a vu en 2013, il y a des petits malins qui vont réussir à nous le mettre. Si c'est pas CD Projekt, il y a des petits malins qui arriveront à nous le mettre en place.
Ils se sentent
mode, en fait.
Ouais. Ils se sentent désolés, mais ils ne considèrent pas que c'est un downgrade.
Ouais, pour eux, c'est pas un downgrade.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que rappelons-nous le cas Watch Dogs. Alors déjà, toutes ces bandes annonces qu'on voit, c'est pas du gameplay en ambiance genre comme nous on va jouer, mais c'est de l'image in-game, ce qui est très différent. C'est-à-dire que c'est mis en scène, ils rajoutent des effets, etc., mais qui peuvent être calculés en temps réel. Rappelez-vous Watch Dogs, il y a des gens après la sortie du jeu qui ont, en trifouillant le code, donné un rendu qui était quasiment celui
De l'E3,
donc c'est-à-dire que le jeu est capable de le faire, etc. Mais c'était juste des choix de brume, de focus sur les effets, qui, quand tu joues en fait, peuvent être désagréables ou altérer ta prise en main, etc. Mais que le jeu sait faire, mais que tu boostes à fond quand tu fais tes cinématiques, parce que ça rend visuellement mieux.
Et il faut, et il
donc
faut
tout
le PC,
ça c'est des choix
PC qui a l'air insolite
un gros PC
aussi.
Bien sûr mais c'est des choix qui parfois vont vers le gameplay en fait aussi.
Ah mais complètement parce que encore une fois imaginez le jeu de 2013 il sort comme ça mais est-ce que vous pensez que ça va être un monde ouvert du même tonneau quoi, est-ce qu'il va y avoir autant de végétation, autant de gens, autant est-ce qu'il va être aussi grand moi je suis pas sûr que quand ils le prennent en 2013 ils s'imaginaient qu'ils allaient faire un monde aussi gigantesque aussi. Donc il faut voir que The Witcher c'est énormissime. C'est voilà,
ah, c'est
et,
très grand.
Et ça reste quand même super beau.
C'est très grand et extrêmement varié. Tu sens qu'il y a très peu de reprises dans les, dans les décors et pourtant c'est gigantesque.
Mais ce qu'ils pourraient faire aussi, ça, c'est préciser dans les trailers, etc., quand c'est du in-game, préciser que c'est fait à partir de la version PC.
Parce que c'est vrai. Version PC surboostée ou en dev kit, ouais.
Ouais, bah, préciser PC avec toutes les options poussées.
Ou
poussées
le jeu ne sera
max,
peut-être pas exactement comme ça lorsqu'il sortira.
Mais attention à une subtilité de langage, il y a in-game et in-engine. C'est pas la même chose.
Ouais, parce que
in-game,
tu peux
c'est
vraiment
en gros comme vous allez le voir dans le jeu quand vous jouez. Et in-engine, c'est le moteur du jeu, c'est-à-dire c'est calculé en temps réel, il n'y a pas de triche, etc. En revanche, c'est vraiment fait avec tous les éclairages sur cette scène spécifiquement, avec les trucs qui font que bon, dans le jeu, c'est pas forcément exactement comme ça, mais c'est le moteur
du jeu.
C'est
ce qu'ils avaient fait pour Dark Souls 2, où il y avait en gros une explication que, bah oui, dans les trailers, le premier trailer, il y avait des éclairages de folie et tout, sauf que bah, si tu le laissais pour les versions console, ça faisait que tu jouais à 3 FPS.
Bah, c'est ça, et c'est peut-être ce qui va se produire aussi avec Star Wars Battlefront. Alors, les développeurs actuellement disent non.
Ah, ça va être là.
Mais c'est possible quand même que ce soit le cas, parce que
ça,
c'est
ça
un
va être
petit
le truc de l'E3, ça va vérifier si Battlefront c'est du bullshit ou pas, Romain.
Mais le truc, c'est qu'ils vont finir par se prendre une class action avec leur bêtises, parce que tu sais, il y a des gens qui sont très
procéduriers,
et si tu leur présentes un truc et que sur le produit qu'ils ont acheté, bah t'es loin de ce rendu, bah au final ça va mal se passer.
Bah ouais, mais Aliens Colonial Marines, Gearbox visiblement a sous-traité très mal, et par rapport au premier trailer, bah ça n'avait rien à voir, et bah Sega a quand même lâché 1 250 000 $ en class action pour résoudre le problème.
Après, très honnêtement quand même, combien de personnes voient le trailer 3 ans avant puis après ne voient plus jamais rien du jeu et puis l'achètent? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de vidéos, je parle de Witcher là en l'occurrence, hein, mais enfin Watch Dogs c'était la même chose, qui sont sorties dans les semaines,
entre-temps,
mois avant la sortie du jeu, et qui montraient quand même la réalité du jeu, c'est-à-dire quelque chose de moins impressionnant.
Mais Downgrade, ils auraient dû en parler à ce moment-là.
Mais les gens le voient, mais ils n'oublient jamais la promesse initiale. Je me souviens bien, Watch Dogs, juste avant la sortie, il y avait des gens qui avaient comparé le reveal qu'avait mis tout le monde, ce qui avait scotché tout le monde à l'E3 et le dernier trailer en date. Donc les gens ne passent pas du trailer reveal au jeu fini, ils suivent la progression du truc, mais ils notent bien ce downgrade au fur et à mesure. Ils l'oublient pas, tout simplement. Et ils se plaisent bien à le rappeler.
Rappelez-vous, les promesses ne sont là que pour ceux qui y croient, hein.
Ah, non, gaffe
que ceux
qui
y croient, je ne sais plus d'où.
Jean Jaurès, non ?
Je ne sais pas. Mais oui, c'est sûr que, en tout cas, ce qui est certain,
Marc Lacasco, je crois.
Que pour nous tous, là, la leçon que, là, semaine, mois, année après année, on doit retenir, nous, journalistes, dans le média jeux vidéo, c'est, et là, on va y être confronté très rapidement, d'ici moins d'un mois, à l'E3, c'est oui, on peut s'enthousiasmer, oui, on peut machin, mais il va falloir mettre une petite grain de sel sur et si c'est vraiment comme ça. Je me rappelle que c'était le cas déjà l'année dernière avec toi, Plume, hein, sur la conférence Ubisoft, parce que maintenant
Unity,
on est un peu obligé de faire attention aussi.
Unity, on n'était pas loin de ce qu'on a vu quand même.
Unity, il est splendide.
Unity, magnifique. C'est Rainbow Six Siege là qui. Faudrait qu'on.
C'est un peu dommage quand même de partir du principe, quand on te présente un truc, de partir du principe que l'éditeur ou le développeur cherche à te mentir.
Oui, mais
et
tu
à te faire de l'esbrouf et tout comme ça.
C'est comme le cinéma avec les honest trailers. Le trailer, tous les films ont l'air mais incroyable, ça va défoncer. Puis les films, bon, c'est pas
forcément.
Après,
si tu pars du principe du honest trailer, ça veut dire que tous les films, quels qu'ils soient, sont tous mauvais. Donc,
tu peux
toujours sortir des petits détails qui font que oui, c'est un peu.
T'as même des scènes dans certains trailers de films qui ne sont même pas dans les films.
Ouais, ça, c'est les cuts et les trucs comme ça.
Dr. House le dit, de toute façon, tout le monde ment. Faut que tu le saches. Et d'autre manière, on ment même nous-mêmes quand on fout des. Je sais pas, sur Facebook ou sur Mythique, quand on fout nos photos de profil en noir et blanc, par exemple, ou qu'on est sous le bon profil ou machin.
Mais après, si
ou qu'on se montre 10 ans avant, quand on avait 15 kilos de moins, tu vois, ce genre de choses.
Mais tu vas te retrouver avec des previews défaitistes, en fait, des previews négatives de jeux, parce que les gens vont être méfiants maintenant.
Oh bah, au stade de la preview, ça va encore.
Tu vas avoir envie de t'enthousiasmer pour un truc, mais après, tu vas dire. Eh ouais, mais est-ce qu'ils sont pas en train de nous la faire à l'envers avec leurs effets et trucs comme ça,
enfin, au c'est... reveal, oui. À la preview, généralement, il y a deux mois, ça, il n'y a pas de gros changements, quoi. Mais au reveal, ouais, faut faire un peu attention.
Ouais, reveal, va falloir faire très gaffe.
Ouais, faut rester quand même enjoué, quoi. Enfin,
c'est ce que je dis, mais
quand on découvre,
virgule, si c'est ce qu'on a vu.
Ouais.
Parce que on les connaît, les cas où ça a changé. Et quand même, sur les 2-3 dernières années, il y en a beaucoup.
Ouais. Quoi qu'il en soit, The Witcher, c'est peut-être pas celui qui aurait mérité le plus d'éclairage sur son downgrade, parce que ça reste un putain de bon. bon jeu, jouez-y, n'hésitez pas. Bref,
bah, allons... c'est une chose de le souligner.
Ouais.
Une autre de la câbler.
Oui, parce que bah, tu sais, si on l'avait sous la main, on remontrerait le dessin qui était paru sur Twitter avec ce que les gens ont vu en 2012 sur Watch Dogs, ce qu'il est aujourd'hui et ce qu'ils s'imaginent qu'ils décrivent. C'était un dessin tout pourri, je ne sais pas si vous vous rappelez, un dessin d'enfant de 4 ans. Enfin bon, des fois, l'excès...
C'est tout dans l'excès. Ouais.
Ouais, exactement.
L'excès sur Internet, moi j'ai beaucoup de mal à y croire. Moi je trouve que les gens sont très mesurés sur Internet et c'est beaucoup de calme et de...
C'est la hauteur de l'attente aussi, quoi.
Très bien. Messieurs, maintenant nous allons passer au hors-jeu. Et au hors-jeu, je vais commencer avec...
C'est pareil aussi pour le jingle du hors-jeu. Je trouve que pour voir le rapport entre le gong...
j'aime bien moi le gong.
Ce klaxon là et
C'est dans Inception. Je sais plus qui fait la musique d'Inception déjà.
Hans Zimmer.
Ah, c'est, bah, voilà, c'est le gong de Hans Zimmer. Il fait ça tout le temps, je crois.
Non.
Oui, mais le rapport avec le hors-jeu.
Ouais, même tout
court. Ah, c'est juste parce que c'est un film, c'est ça?
Oui,
exactement. D'accord.
Julo, tu vas nous parler de quelque chose qui est récent.
Qui revient.
Un truc de ouf.
Ouais, donc il y a effectivement, et d'ailleurs on est un peu dans la même époque et la même, enfin pas la même ambiance, la même époque et le même lieu que Assassin's Creed Syndicate, c'est-à-dire le Londres victorien. Et je vais vous parler donc de Penny Dreadful, dont la saison 2, c'est une série Netflix. Alors comme Better Call Saul, elle est faite en partenariat avec une chaîne de télé, et donc c'est une diffusion avec un épisode toutes les semaines. C'est assez frustrant quand on a pris l'habitude avec Netflix de se mater tous les épisodes d'un coup.
Je comprends. Rendez-vous avec Eva Green toutes les semaines seulement.
Voilà, donc c'est avec Eva Green et on voit aussi Timothy Dalton, que j'avais pas reconnu au départ quand j'avais commencé la série.
Il y a pas de Josh Hartnett aussi,
qui est excellent.
Si, Josh Hartnett est un des personnages principaux.
Et c'est une super série donc qui reprend en fait tous les mythes de cette époque, le loup-garou, les vampires, le docteur Frankenstein et sa créature. Voilà, c'est une super ambiance, c'est très bien réalisé et c'est une histoire assez cool. Il y a une histoire en fil rouge en fait entre les saisons qui tourne autour d'Eva Green, qui est vraiment le personnage central en fait.
Normal.
Voilà.
Si elle était dans ma vie, elle serait aussi un personnage central.
Certainement, j'en doute pas. Ouais. C'est très sanglant, c'est très gore, c'est très bien. Voilà.
Ouais. C'est toujours aussi bien dans la saison 2 alors?
Bah écoute, là pour l'instant il n'y a eu que 2 épisodes de diffusés, le 3ème est sorti là aujourd'hui, là, ce matin, je ne l'ai pas encore vu. Mais ouais, j'accroche toujours autant, très, très 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 bonne ambiance, très bon univers, on vous le recommande si vous avez Netflix. Voilà.
Très bien. Romain, on reste dans les séries avec toi, et toi c'est quelque chose qui n'est pas récent.
Non, ça a 3-4 ans.
Mais il fallait en parler parce qu'il y a Zoé Deschanel dedans et que Zoé Deschanel mérite des bisous.
Alors en fait, je vais vous parler de une série qui s'appelle New Girl. Ma sœur m'en avait parlé il y a quelques années, m'avait dit tu vas voir, c'est génial, et j'avais regardé de loin et je me suis dit ça a l'air d'être une comédie romantique, un truc.
Il faut dire que le pitch de départ, c'est une fille qui emménage chez des mecs.
Ouais, voilà.
Ça fait un peu AB Production.
C'est une fille un peu naïve, elle est enseignante, un peu gauche, awkward comme diraient les Américains.
Attachiante, hein, comme on dit en France.
Et qui emménage dans un loft à Los Angeles avec 3 mecs. Et c'est du n'importe quoi de A jusqu'à Z. C'est extrêmement drôle. Moi, j'avais adoré Friends. Pour moi, Friends, c'est le top du top. J'avais beaucoup aimé How I Met Your Mother aussi. Et ces deux séries-là ont laissé un vide, en fait, dans mon planning télé. Et j'ai essayé New Girl il y a quelques temps et j'ai avalé les 3 saisons... les 3 premières saisons super vite. Chaque personnage avec qui...
Tu sais qu'il y a des verbes qu'il vaut mieux pas trop utiliser, genre le verbe avaler, tu vois. Je pourrais appuyer sur mon synthé et lancer quelque chose.
Mais avec moi, tout ce que je peux dire, tu me donnes envie d'appuyer sur Carless Whisper.
Ouais, je sais. Bah, tu sais quoi, tu l'as mérité.
Voilà, donc j'ai avalé New Girl. Ouais. Et les 2 premières saisons sont sur Netflix. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert la série. Par exemple, il y a le personnage de Schmidt qui est un playboy un peu raté. C'est un ancien gros qui maintenant passe de conquête en conquête. Mais il est assez maladroit aussi, un peu lourd. T'as Winston, c'est le mec qui sait pas quoi faire de sa vie, mais qui est super bizarre, mais d'une autre manière aussi. Et t'as le héros Nick, qui lui est barman, qui aurait pu être avocat, qui a fait toutes les études pour être avocat, mais qui a décidé de tout laisser tomber pour devenir barman. C'est le mec un peu raté, un peu paumé aussi. Enfin, c'est vraiment très drôle. Il y a beaucoup d'humour absurde, des références dans tous les sens.
Et la série est toujours en cours ou pas?
La série est toujours en cours. Elle vient d'être renouvelée pour une 5e saison, je crois.
D'accord.
Et franchement, si vous aimez les séries américaines drôles, bah allez-y, vous passerez un bon moment sur New Girl.
Voilà. Très bien. Donc, et Zoé Deschanel, à qui on fait des bisous.
Évidemment. Zoé Deschanel, qui est mini Katy Perry.
Ben oui, et avec Emily Blunt, c'est les trois qui se ressemblent un peu beaucoup.
Oui, c'est vrai. Elles ont toutes les crazy eyes.
Non, elles n'ont pas de crazy eyes du tout, tu mens. Julien.
Bonjour.
En cette période où un film est en train de bouleverser le cinéma, tout le monde a été le voir, sauf nous, là, je crois, pour l'instant. Hein. Rami n'arrête pas, pas de nous dire que c'est génial. Toi, tu y vas ce soir, donc oui. ce vendredi 22 mai au soir. C'est Mad Max qui est sorti. Donc, toi, tu as vu Mad Max, mais tu as revu
celui de 79.
Voilà.
Alors, je l'ai même tout simplement vu. Parce que je me suis dit, bon, bah, c'est bien sympa de parler de Mad Max le nouveau. Mais non, je l'avais pas vu. Voilà.
D'accord.
Donc, j'avais vraiment envie de le découvrir. Eh bien, c'est assez incroyable pour ceux qui ne l'avaient pas vu encore. Ruez-vous dessus. C'est une ambiance très particulière.
Parce que je ne l'ai pas
vu. Tu l'as pas vu non plus. C'est très particulier. Alors, c'est un film des années 79. Donc, il y a un rythme très oppressant, c'est une société post-apocalyptique où finalement les méchants, la racaille de l'époque est complètement dingue, mais les flics qui sont censés les retenir sont tout aussi barrés. La seule différence que eux, ils ont des boulousons en cuir puis des petites plaques de justicier quoi.
Et une bagnole de ouf.
C'est l'intercepteur je crois.
C'est
ça que je regardais là à l'instant parce que ça me disait quelque chose. Mais le film a tardé à arriver en France. Il a fallu attendre 3 ans après sa sortie initiale en Australie, parce que c'est un film australien, hein, George Miller, Mel Gibson, qui n'était absolument pas connu à l'époque, hein, qui est devenu une star internationale, mais un petit peu après. Là, c'est le méchant qui a une tête de fou, qui est complètement taré. C'est cru, c'est violent, c'est dérangeant. Et donc, c'est arrivé 3 ans après en France, parce que et le film a été interdit au moins de 18 ans. D'ailleurs, initialement, il aurait même pu être classé X, enfin, parce qu'il y a des scènes vraiment.
Là, tu mets pas Careless Whisper.
Vraiment encore. Non, parce que c'est pas très sexuel, c'est plus de la violence assez
crue. C'est juste parce que ça dit X, hein. Moi j'ai juste dit avaler, j'ai eu le droit, donc à partir de là.
Mais alors vraiment, c'est étonnant par son rythme et tout, ça me donne encore plus envie d'aller voir la version de 2015, qui est en plus vraiment de George Miller aussi.
Donc tu vas regarder le 2 et le 3.
Alors le 3, on m'a dit que c'est un petit peu décevant, mais d'ici ce soir, j'aurais pas eu le temps de voir le 2. Parce qu'en plus, j'arrivais pas à le trouver en VOD, ça me dérangeait un peu.
Sur Canal Play, ils ont remis les 3, je crois.
Ah oui ?
Ouais.
D'accord.
Bah, les instants de la classe américaine, il y a un petit passage de Mad Max dedans.
D'accord.
Oui, c'est les yeux qui
sortent.
Ah,
les yeux. J'ai fait un arrêt sur l'écran parce que c'est assez impressionnant.
Ouais,
ce passage-là. Donc, c'est pas un film très verbeux. Hein. Ça parle pas énormément, mais c'est assez signifiant. Et ça se joue vraiment dans l'ambiance, dans espèce de course-poursuite fréquente. Je sais pas, enfin, je pense que c'est un film que Kubrick aurait pu ne pas renier. Il y a, ouais, voilà,
oui,
les effets spéciaux de l'époque.
Si vous êtes premium, vous pouvez voir les yeux
exorbités.
Les yeux
Vraiment, je trouve que j'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir. C'est un film vraiment marquant.
D'accord. Prochaine étape pour le hors-jeu, tu nous regardes Jack Burton dans
Les
Griffes du Mandarin.
Oui, c'est ça, voilà, c'est ce qu'on m'a dit.
Parce que,
on m'a conseillé.
Ouais, on en a parlé hier.
Et le mandarin, et les Griffes du Mandarin, c'est ça.
Tu mets Big Trouble in Little China.
Ouais. Non mais là je suis très dans la période de revival les années 80.
Mais attends, mais les années 80 c'était tellement
j'ai
bon. Regardé, jamais sorti.
Escape from New York, etc. Enfin, et ben moi j'adore vraiment les. J'en avais déjà parlé, je crois, dans les hors-jeux, le rythme de ces films de cette époque-là, l'ambiance même générale, ça va beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. C'est beaucoup moins des clips. C'est moins raffiné visuellement, mais
c'est moins maîtrisé, quoi. Il y a cette volonté de.
On est vachement plus sur les personnages. On leur laisse le temps de s'exprimer, bon, même si dans Mad Max ça parle pas beaucoup, mais je sais pas, les ambiances
les
sont
films,
là. Quoi.
Les bons films des années 80 sont éternels. Moi, il y a pas longtemps, j'ai revu Retour vers le futur 1 et 2 avec mes gosses. Putain, ils ont adoré. Ils ont adoré malgré les.
Pourquoi ils n'ont pas de portable ?
Ouais, non, et malgré la difficulté à bien comprendre pourquoi le mec du passé va dans le passé. mais à notre époque, c'était un mec du présent. Etc.
J'ai vu Ghost aussi.
Ghost, c'est un super film aussi.
Un film, ce film, mine de rien.
Ne
lancez pas sur
les années 80. Là.
Ouais, on fera un podcast spécial années 80 si vous voulez, un de ces quatre, si ça vous intéresse.
Ah ouais.
Ça peut être sympa. On pourrait faire un petit mix sur les jeux. Ah, bah tiens, voilà, on a un thème.
Un podcast sorti.
Oh là là, un podcast années 80 pour faire le rapport entre les jeux et les films des années 80, ça peut être génial. Et on invitera, évidemment, évidemment Marc Toesca pour le présentateur du top 50. Bref, Mad Max le premier qui doit exister de toute façon en version copie DVD ou Blu-ray à revoir.
C'est en VOD en tout cas.
C'était en VOD
ça. Ah, moi j'ai vu
en
VOD.
Je suis pas
VOD,
certain
moi.
Qu'il soit sur Netflix.
C'est non, vrai, non, il y est pas.
Il y est pas, je crois.
Non, je l'ai vu sur la PS4.
D'accord.
Donc il est au moins sur le PS4.
D'accord. Très bien. Donc, grand film de George Miller qui date de 1979. Mais maintenant, messieurs, nous devons arriver à la fin de ce podcast. Avant ça, avant le quiz, nous allons évidemment faire un petit point concours. Bon, Julo ?
Oui, alors, pas de changement par rapport à la semaine dernière, mais on récap. Donc, toutes les semaines, un concours Joe Vidéo qui vous permet de gagner des abonnements premium annuels en répondant à quelques petites questions assez fastoche si vous suivez cette excellente chronique qui est là deux fois par semaine sur Gameblog. Donc ça, voilà, le concours permanent. Et on a un autre concours.
Ah, quand on a déjà parlé la semaine dernière.
Voilà. Parce qu'on réservé à nos membres premium.
On s'est quand même décarcassé pour faire ça.
Voilà, tiens, vas-y, sors-le parce que je vais pas y arriver en parlant.
Moi non plus, je vais pas y arriver. Attends, je vais le faire en retirant le micro. Tu veux que je continue à parler ? Parce qu'on s'est décarcassé un petit peu. Enfin, surtout moi en fait. C'est carrément ma collection personnelle que je vous offre, puisque j'avais eu droit à un superbe poster assez rare. Et ben, je me suis dit
The Witcher 3, quand même, pour ceux qui n'ont pas la vidéo.
Et je me suis dit quand on est allé en Pologne pour faire la preview, tiens. Ce poster, si j'y allais chez CD Projekt avec ce poster et que je faisais signer aux développeurs au cas où, et qu'en plus, juste derrière, eh ben, on vous le fait gagner par petit concours à vous, nos chers membres et lecteurs. Voilà, c'est un poster déjà, l'artwork défonce, mais alors
c'est
en plus,
beau, hein.
Signé par des Bédicacé, développeurs quoi. De chez CD Projekt, je pense que sa valeur. Et
inestimable.
Oh oui, et que bah, ça trônera très bien derrière un petit cadre dans votre salon ou votre bureau ou votre salle à manger ou même vos toilettes, il n'y a pas de raison. Hein.
Bref. Ça mérite d'aller dans un beau cadre, d'être, d'être accroché.
Franchement, je pense qu'un beau cadre en bois par-dessus ça.
Au-dessus d'une cheminée.
Ah ouais, au-dessus d'une cheminée, juste en dessous d'une tête de serre.
La cheminée n'est pas vendue avec.
Ça pourrait être parfait, bref.
Et c'est un
pas.
Visuel plus ou moins inédit. Moi, je l'ai cherché sur le net.
Très difficile à trouver.
Et donc, c'est un cadeau réservé à nos membres premium. Le concours dure jusqu'à la fin du mois, voilà, le 31 mai.
Voilà, exactement. Donc, bonne chance à vous tous. Participer, parce que si vous participez pas, c'est moi qui le garde. Ça serait vraiment.
Quand on connaît ton attachement à The Witcher, ça ne rend le cadeau que plus beau.
Bah oui, évidemment. Mais je pense qu'il y aura d'autres choses que j'offrirai un jour de The Witcher. Il me reste encore 2-3 petits trucs. Que je peux utiliser.
Qu'est-ce qui est gentil ce plumeau.
Ouais, c'est vrai. Mais surtout, je collectionne pas. Parce
la
que
crème
sinon,
des internets.
Sinon, ma femme, femme me
et
défonce.
Et il sera envoyé dans le petit tube aux couleurs de The Witcher.
Exactement.
Voilà.
Bref. Non, mais il y a encore 2-3 petits trucs que je pourrais balancer sur The Witcher. Mais ça, on le gardera pour plus tard. Jeunes gens, vous allez affûter vos micros immédiatement. Car, comme vous le savez.
Oui.
Nous finissons par le quiz du podcast de Gameblog. J'attends que Julo ait fini de ranger
le poster
que vous allez gagner. Julo, tu es prêt ?
Ouais.
Le quiz de cette semaine porte, puisque Mad Max est sorti au cinéma, sur le post-apocalyptique dans le jeu vidéo. Et là, j'espère que vous êtes bien rencardés. Parce que je vous ai pas fait des questions faciles, vous connaissez les règles. D'abord le pseudo ou le prénom, et ensuite la réponse. C'est parti, question numéro 1. Quel est le prénom du héros de la saison 1 de The Walking Dead version Telltale ?
Romain.
Oui.
Lee.
Ah ouais, c'est ça.
Exactement.
Il ne revenait pas.
Pour ouais, pareil.
Ah. Question numéro 2. Quelle série de jeux nous permet d'incarner deux Cavalier de l'Apocalypse.
Julo.
Oui.
Oh, Darksiders.
Eh oui. Point pour
fait les deux.
Il ne me venait pas tout de suite. Là. J'ai flippé parce que j'ai dit oui. Tiens.
On prend de l'âge. Hein. C'est dur de se rappeler de certaines choses. Dans quelle série de jeux est-on équipé d'un accessoire appelé Pip-Boy 2000 ?
Julo.
Oui.
Fallout.
Bien. Je sens que tu as hésité aussi là.
Ah oui, j'ai hésité.
C'est bien ce que je me disais. Tu vois, on commence à se faire vieux. 2 points pour Julo, 1 point pour Romain. Question numéro 4. Dans Metro 2033. Sous quelle ville se balade
Julo?
Oui.
Moscou.
Et oui, oh là, bah Julo qui
dégaine plus vite que son.
Il a quoi plane sur ce quiz. Ça, c'est la victoire de Julo, quoi qu'il arrive.
Ouais, tu as gagné. Ouais.
Question numéro 5 pour le sport. Dans quel jeu post-apocalyptique incarne-t-on un animal qui lutte pour sa survie dans une métropole japonaise?
Romain, Tokyo Jungle.
Exactement.
Ah, oui, oh là. Ah ouais, là je oui, j'arrête.
Oh, oui. Tiens en forme aujourd'hui. Hein.
Je pensais que c'était ça qui est mes questions, mais en fait pas du tout.
Là potentiellement, moi je pouvais répondre aux 5.
C'est vrai.
Ouais.
bah t'auras une médaille à la fin du
podcast.
Bon, en tout cas, bravo Julo.
Merci.
Et merci d'avoir participé à ce podcast. Merci Romain, merci Julien,
merci
une fois de plus
toi.
Pour cette actualité débordante que nous avons commentée et que nous vous commenterons encore une fois la semaine prochaine. On se retrouve évidemment dans une semaine, mais n'hésitez pas à faire part de vos réactions, de vos commentaires, de vos questions. On a peut-être dit des bêtises, n'hésitez pas à nous corriger. Donc,
en attendant, je pense que quand on dit des bêtises, là, t'as pas besoin de leur dire de nous corriger.
De quoi
nous
tu veux mettre le fouet? N'hésitez pas à nous à corriger maîtresse. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast de la rédaction. D'ici là, portez-vous bien et surtout, jouez bien. Ciao.
Ciao.